Les rendez-vous de midi, à nouveau comme hier, on parle un petit peu littérature avec votre invité aujourd'hui, Emmanuel, dans nos studios, Florence Le Gueult.
Oui, le hasard, un calendrier avec nous aujourd'hui, Florence Le Gueult, vendéenne depuis quelques années maintenant, mais à l'origine, originaire de la région parisienne, vous êtes installée à Notre-Dame-de-Rillé. Vous avez édité, même auto-édité, votre premier roman, un livre écrit il y a plus de 20 ans, mais on va remonter encore un peu plus le temps avant de parler évidemment du livre Perversion à la Une. La jeune adolescente que vous avez été écrivait beaucoup, avez-vous dit. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont cette passion de l'écriture est entrée dans votre vie ? Bonjour Florence.
Bonjour.
C'est venu toute jeune ?
Toute jeune, j'ai toujours écrit. Avant c'était des petits textes qui parlaient de la vie de tous les jours. Puis c'est devenu des poèmes, beaucoup sur mon papa, que j'ai pas connu. Et après, c'est devenu à l'adolescence des textes un petit peu plus forts, qui parlaient des problèmes de l'adolescence, de l'amour aussi. Et puis j'ai découvert Agatha Christie assez tard. Et là, je n'ai réussi qu'à écrire des romans policiers.
Vous avez été plongée dans un univers qui vous a vraiment plu, Agatha Christie.
Je suis devenue fan.
Fan. Patricia Cornwell aussi, vous lisez.
Patricia Cornwell, ça arrivait un peu plus tard, mais oui, quand je lis, c'est ses livres à elle.
Et donc, à 15 ans, vous lancez même dans un premier roman. Vous n'avez pas encore lu Agatha Christie à 15 ans, si ?
Si, j'avais déjà découvert. Et c'est ça qui m'a aidée à pouvoir mettre en place cette première enquête. Que je n'ai jamais fini.
Vous avez fait quoi des textes écrits à ce moment-là ?
Eh bien, je les ai jetés à la poubelle parce que je ne trouvais pas la fin.
Il manquait juste la fin.
Il ne manquait que la fin.
Et maintenant, j'imagine que vous regrettez.
Ah, mais vraiment fortement. Hein. Je conseille aux gens de ne pas jeter parce que maintenant, je l'ai toujours dans la tête, mais je n'ai jamais réussi à écrire à nouveau.
Et vous avez trouvé une fin ou pas ?
Non.
C'est ça, donc il faut y réfléchir à cette fin. En tout cas, les années ont passé, donc vous écrivez pour vous, si je comprends bien, c'est un exutoire l'écriture.
Oui, tout à fait, c'est ce qui permet, c'est un petit peu exutoire, oui, parce que c'est un roman policier, donc ça parle quand
en
même
général,
de meurtre.
Quand vous écriviez, je parle pas forcément de ce livre, mais en général, le fait d'écrire.
Oui, ça permet de mettre sur papier ce qu'on ressent.
Mais les années passent et vous mettez de côté l'écriture, votre passion particulière, et vous travaillez évidemment comme beaucoup de personnes. Hein, vous êtes en coiffure, dans le commerce.
Oui. Et puis j'ai ma vie de maman, tout ça.
Et l'écriture, elle est mise de côté pendant ces années de femme.
Oui, complètement.
Jusqu'à 1995.
C'est ça. C'est parti d'un pari.
C'est-à-dire.
Eh bien, on était au ski avec des amis. Alors, je mets l'ambiance autour d'un feu, à l'apéro. Je leur raconte ma première histoire. Et ils me disent, et alors ? J'ai dit, alors, il n'y a pas de fin.
C'est pour toi qu'on va faire cette fin un jour.
Donc, au jour de l'an, ils m'ont dit, allez, quand on rentre de voyage, tu achètes un cahier, un stylo, et t'en écris un autre. Et je l'ai fait.
En combien de temps ?
En quelques semaines, j'écrivais partout. J'écrivais le jour, la nuit, dans le métro, un peu partout.
Ah, j'allais vous demander, j'aime bien savoir comment les auteurs écrivent.
J'avais un cahier dans mon sac et dès que j'avais une idée, j'écrivais. Des fois, je me réveillais la nuit pour mettre ce que je venais de penser par écrit.
Et donc, tout à la main ?
Tout à la main.
Pas d'ordinateur ?
Ah, non, j'avais pas à l'époque.
Et puis, vous avez gardé, je crois, cette habitude d'écrire à la main aujourd'hui ?
Oui, beaucoup, oui. Ouais. Oui, j'aime beaucoup.
Ça vous permet effectivement d'écrire n'importe quand,
Je mets un premier geste à la main et après je reprends et là par contre je le fais maintenant sur ordinateur.
Et donc là le roman, il est abouti en 1995.
Oui.
Sauf que vous le mettez dans un tiroir, heureusement vous ne le mettez pas à la poubelle là.
Non, cette fois-ci je l'ai gardé dans un tiroir puis dans des cartons.
Et vous l'avez fait lire à vos amis à ce moment-là ?
À quelques personnes, je l'ai fait lire aussi à une de mes tantes qui n'est pas du tout fan de romans policiers et qui a aimé. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui l'ont lu à l'époque.
Pourquoi vous ne pensez pas effectivement à le présenter à une maison d'édition, rien ?
Alors non, j'ai essayé en 2003, puis je me suis dit que ce n'était pas pour moi, donc j'ai arrêté.
En tout cas, vous le mettez dans un tiroir, dans un carton, et pendant 20 ans jusqu'à votre inscription, mais vraiment 20 ans plus tard, à un célèbre concours d'écriture.
Oui, on m'a parlé du concours 36 Quai des Orfèvres. En me disant, pourquoi pas, vas-y, tente, envoie ton roman, on sait jamais. Et de toute façon, même s'il n'est pas choisi, tu recevras l'avis du jury. Donc je l'ai relu. Je me suis rendu compte que les années 95 et les années 2000, c'était plus du tout pareil, ça avait changé. Tout avait évolué, moi aussi j'avais évolué. Donc j'ai complètement changé l'époque de l'histoire.
Mais là, l'intrigue restait la même.
L'intrigue restait la même, avec des différences. Parce que du coup, elle cherche plus une cabine téléphonique, elle a son téléphone portable.
Évidemment.
Elle ne donne plus à développer les pellicules.
Voilà, par exemple.
Voilà, c'est des petits exemples.
Et vous présentez votre roman donc, à ce célèbre concours, et puis vous avez un retour, effectivement, du jury.
Oui, j'ai été vraiment flattée. Il m'avait écrit que l'histoire était très bonne, que mes personnages l'avaient touchée, mais qu'il y avait des erreurs qu'il fallait que je corrige.
On vous a donné des exemples d'erreurs ou pas ?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Oh, c'est pratique ça.
Mais il a fallu que je réalise du coup. Et j'ai trouvé, oui, effectivement, ce qui colle.
Qu'est-ce que vous avez retravaillé à ce moment-là ?
Déjà, j'avais fait des erreurs de date et puis c'était pas assez abouti.
Donc voilà, donc c'était bien en fait, ce petit mot-là vous a donné un petit coup de boost.
Oui, ça m'a donné confiance en moi en fait.
Au contraire, ouais, c'est ça vous a poussé positivement. Vous n'êtes pas dit, ah, ma mince, non, au contraire.
Non,
qu'on vous dise que l'histoire était bonne, les personnages attachants, ça vous a.
Ben, ça a été complètement positif.
Vous avez retravaillé le texte, une nouvelle fois encore en fait.
Oui, hein. Bah, il a été travaillé, je ne compte même plus.
Vous êtes souvent comme ça, vous savez, hein, les livres. Et c'est une amie aussi qui vous aide à le corriger, et qui vous soutient et qui vous pousse complètement même. Hein.
Ah oui, bah, Sophie, coucou Sophie. Elle m'a harcelée en fait.
Pourquoi ?
Elle m'a harcelée en me disant, mais arrête, vas-y, il faut que tu te lances, on ne sait jamais... Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais.
À harceler pour que vous l'éditiez, en fait.
Oui, c'est ça.
Elle vous n'avez pas ça en tête. Hein.
Si, oui, mais je n'osais pas.
Et donc, c'est le coup de pouce de Sophie qui vous a poussé.
C'est ça.
Et donc, vous découvrez, alors vous décidez en fait que vous allez auto-éditer votre livre, comme beaucoup d'auteurs le font aujourd'hui. Mais c'est évidemment un univers qu'on ne connaît pas, hein, qui ne nous est pas présenté. Et là, ça a été quoi, des portes à pousser, plein de choses à faire. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir à ce moment-là ?
Eh bien, déjà, pendant quelques semaines, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour savoir quel type choisir, si je passais par des grandes marques ou toute seule. Et finalement, là où je me sentais vraiment plus à l'aise, c'était me gérer toute seule. Donc faire l'auto-édition. Et je suis tombée sur un imprimeur qui a été vraiment très très bien. Je ne sais pas si je peux dire le nom.
Ah ben oui, bien sûr.
C'est Copy Media.
Ouais.
Parce que la personne m'a vraiment donné toutes les informations que j'avais besoin, sans même que j'ai signé quoi que ce soit avec elle. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait faire des demandes de numéros et tout ça. Et ça, je ne le savais pas. Et elle a été vraiment très très bien.
Donc il y a plein de démarches à faire pour pouvoir éditer un livre.
Oui.
Ouais. Ça a pris combien de temps ?
Alors, les démarches, je les ai faites au fur et à mesure, mais il faut compter au moins 2 mois pour avoir déjà rien que toutes les informations, recevoir le livre, faire la demande de numéro pour avoir le GenCode. Et une fois qu'on en reçoit son roman, il faut l'envoyer aussi à la Bibliothèque Nationale
de
Paris.
Vous savez, alors là, de se dire que mon livre, il est à la Bibliothèque Nationale de Paris. C'est une grande fierté.
Ah mais carrément, oui.
Et le jour où vous le recevez ?
Ah ben le jour où j'ai reçu mon roman, j'étais pas là, c'est ma fille qui l'a reçu en premier, mais quand j'ai déballé le carton, j'ai eu ma petite larme.
Ah, j'imagine. Surtout, vous avez tout fait, alors non, évidemment, l'écriture du livre, hein, ça on a compris, mais aussi la couverture, l'illustration de cette couverture, par exemple.
Oui, j'ai vraiment tout fait moi-même, sur mon ordinateur, comme une grande. J'adore ça, donc... pour faire la couverture, j'ai eu beaucoup d'aide de mes amis. Je leur envoyais des exemples. Je leur disais, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, non. Puis, au bout d'un moment, ils ont dit, ah ouais, celui-là, il est bien.
Et vous l'avez sorti quand, alors, ce livre ? Parce que c'est... Ça fait un petit moment, en fait, que vous l'avez édité.
C'est récent, quand même.
Ah oui, d'accord.
C'est fin avril.
Oui, bon, un petit moment.
Oui.
Quelques mois. Vous avez vendu 100 exemplaires.
Oui.
Et vous avez reçu pas mal de retours.
Oui, des retours positifs. J'avais demandé aux gens d'être honnêtes pour pouvoir me permettre de mieux travailler le 2. Et des retours positifs, ils l'ont lu, il y en a en 2 jours, et ils ont aimé l'histoire. Et comme ils m'ont dit, une fois qu'ils sont dans l'intrigue, ils n'ont plus envie de s'arrêter.
Et donc vous avez réussi votre pari d'un vrai roman policier.
Ah oui.
Ben justement, on va en parler un petit peu de ce roman policier après une pause. Hein, le pitch de Perversion à la Une et puis la suite qui est déjà prête, mais avec un petit coup de pouce aussi des auditeurs, ce serait sympa. Appel à une campagne participative, on en parle dans 3 minutes.
Juste après Lazara sur Neuve et tu t'en iras.
Même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Tu plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi.
Tu t'en iras, c'était Lazara sur Neuf et jusqu'à 13h évidemment, tout le monde reste pour retrouver donc l'interview, la suite des rendez-vous de midi. Emmanuel, aujourd'hui dans nos studios, vous recevez Florence Le Guet.
Oui, autrice de Perversion à la Une, un roman haletant qui nous fait suivre une jeune journaliste. Alors ça démarre dès le départ, hein, pleine d'ambition. Elle s'appelle Danielle Doll, personnage central qui rêve de devenir une grande journaliste dans une grande rédaction. Un personnage volontaire. Comment il vous est venu?
Alors déjà, j'aime beaucoup le film Les Hommes du Président. Donc pour moi, elle a débuté... Pour débuter ce personnage, je l'ai imaginé rêver d'être dans cette grande salle de presse. Et en fin de compte, d'ailleurs, je le mets dans le livre et elle se retrouve dans un tout petit...
journal local, d'ailleurs, du 93, où vous êtes issu, évidemment. Alors, Danielle Doll, il vient d'où ce prénom et ce nom?
Alors, Danielle, son surnom dans le livre, c'est Dana. Grande fan de X-Files, voilà, Dana Scully. Et Doll comme les poupées.
Et d'ailleurs, elle arrive comme une petite poupée assez pimpante.
C'est une vraie petite poupée.
C'est une petite poupée. Mais elle en a plein aussi dans la tête. Hein. Elle se retrouve donc dans cette rédaction locale du 93 avec un patron odieux possible, un macho. Et il la relaie de suite au classement du vieux dossier jusqu'au jour où elle répond à un appel téléphonique. Un corps a été retrouvé dans un très mauvais état et c'est le début de l'histoire, de l'enquête et d'un chamboulement dans sa vie en fait.
Oui, elle va aller jusqu'au bout de cette enquête, déjà parce qu'elle est très curieuse, et donc elle va rechercher grâce aux documents qu'elle trie actuellement, et elle va réussir à trouver qui est cette personne, et ça va l'emmener vraiment très 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 loin, et ça va lui chambouler complètement sa vie.
Ça, c'est le premier tome donc du livre. Vos lecteurs, vous l'avez dit, ont demandé la suite, hein, et de retrouver ce personnage qui apparemment leur a plu. Et on va retrouver Daniel dans le deuxième tome, puisque vous l'avez déjà écrit. Alors, il n'est pas encore édité, mais il est écrit.
Oui, il est écrit depuis le mois de janvier.
Vous l'avez écrit en plein confinement?
Mais justement, c'est parce qu'il fallait rentrer à la maison à 18h que...
Ah oui,
on n'avait rien à faire.
C'est le couvre-feu qui vous a permis d'écrire.
Le couvre-feu, ben oui, j'avais que ça à faire. Donc, ça m'a reboosté. Et puis, toute cette histoire de me lancer dans le premier, je pense que ça a réveillé quelque chose. Et je me suis beaucoup inspirée de la Vendée et des endroits que je connais bien en Vendée.
Parce qu'on va un petit peu spoiler, mais effectivement, Daniel arrive en Vendée. Changement de cap, de vie que vous avez connu. Depuis quand vous vivez, vous, dans le
Nord? Je suis
arrivée
en septembre 2002. D'accord, donc quand même, j'étais complètement perdue.
Toute jeune, perdue, ça n'a pas été simple. Hein.
Ça n'a pas été simple au départ. J'étais vraiment parisienne, la banlieusarde.
Et alors, c'était quoi la problématique en fait?
À l'époque, c'était moins facile d'être en Vendée quand on vient de Paris que maintenant. Donc ça changeait vraiment tout.
Et donc, vous êtes inspirée de votre propre expérience pour raconter un petit peu ce qu'elle va, elle, vivre au quotidien.
Oui, c'est ça. Son mal-être, son décalage par rapport à ses voisins et le fait de ne pas comprendre ce qu'on veut d'elle dans cette ville.
Bon, vous, en tout cas, ça s'est réglé tout ça.
Oh oui, maintenant, je partirai plus d'ici.
On comprend bien. En tout cas, voilà, la Vendée fait partie du personnage de ce deuxième tome, on va dire, du troisième aussi peut-être, puisque vous l'avez écrit aussi le troisième.
Oui, il est écrit. Sinon, ça faisait un roman de 600 pages, donc c'était gênant.
Donc c'est fait, deuxième, troisième. Et maintenant, il vous faut un petit coup de pouce pour les auto-éditer une nouvelle fois, hein, puisque évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Le texte est prêt, il est corrigé, tout est prêt. Maintenant, il faut un petit peu d'aide pour l'auto-édition. Donc vous aviez déjà lancé une campagne Ulule pour le premier tome du roman. Ça vous avait aidé à lancer de...
Oui, ça m'a permis de payer tout ce que je devais payer pour lancer la facture de l'imprimeur déjà.
Et là, vous redemandez. Alors, en fait, l'idée, c'est ce sont des précommandes, en fait. Hein. C'est une campagne participative via une précommande. Donc, à l'issue de cette précommande, il y aura le livre, en fait, tout simplement.
Oui, c'est ça. C'est des contreparties qui permettent soit de commander, ben là pour celle-ci, ça, soit de commander le deuxième. Il y a aussi la possibilité de commander Perversion à la Une et Les Filles Perdues.
Oui, donc Les Filles Perdues, c'est le titre du deuxième.
C'est le titre du deuxième.
Vous avez un titre pour le troisième,
hein? Pas encore.
Mais je crois que le personnage va écouter 9FM.
Oui, tout à fait.
C'est rigolo. On va être un personnage, c'est la vie d'un roman policier.
C'est étonnant.
Moi, j'ai hâte de lire ça, effectivement, parce que vous écoutez 9FM.
Mais oui.
Alors maintenant, les questions pratiques, évidemment, Florence, hein, Le Gault, si on veut se procurer Perversion à la Lune, vous l'avez dit, et les suivants, comment est-ce qu'on procède à cette campagne participative? C'est sur Internet?
Oui, alors c'est sur ulule.com/lesfillesperdues. Vous avez la possibilité de choisir la contrepartie qui vous correspond le mieux. Donc soit juste, comme je disais, le premier et le deuxième. Vous avez même la possibilité de commander les trois. La trilogie, avec ou sans rencontre, avec ou sans envoi. Je fais des petites surprises aussi de temps en temps. Et sinon, Perversion à la Une est aussi disponible soit en passant par moi, soit en passant par quatre magasins.
Notamment la Maison de la Presse, Librairie des Prés à Chalon.
Oui, ils m'ont fait l'honneur de m'accepter.
Ça aussi, j'imagine que ça fait plaisir de voir son livre dans une librairie. Et Florence, vous, pour passer par vous, comment est-ce qu'on fait?
Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Enquêtes de Daniel Doll. Donc, vous pouvez me contacter directement dessus. Je suis aussi sur Instagram, Florence Le Gault, romancière. Donc, vous pouvez me trouver facilement sur Internet.
Les Enquêtes de Daniel Doll. Écoutez, merci beaucoup, hein, Florence. On va suivre tout cela, évidemment, de près. On va mettre l'émission en podcast avec un petit lien, peut-être aussi avec justement cette page. Et puis, on va suivre, évidemment, ces enquêtes. Et on sent que là, vous êtes lancée, là. Hein.
Ah, mais je suis lancée et on ne m'arrête plus.
Ne vous arrêtez surtout pas. Merci, puis j'espère qu'on aura donné l'idée aussi à plein de gens de peut-être d'aboutir dans leur écriture, dans leur roman, et d'éditer, d'auto-éditer, c'est possible.
Et bravo pour le personnage qui écoute 9.
En plus, oui.
Très bon choix.
Mais je crois que c'est que dans le troisième tome.
C'est dans le troisième. Faudra attendre le troisième. Okay. Faudra attendre le printemps.
Bon, on va attendre le troisième, voilà, c'est pas grave.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Florence Le Gault.
Merci de m'avoir reçue.
Avec plaisir. Demain, très active à la Garnache, une association dont on parle très souvent à l'antenne, mais qu'on n'a encore jamais reçue, et je suis ravie. Ce sont les Garnements. Vous savez, les Garnachois ensemble et solidaires, représentés par leur coprésidente, Julie Le Gault. Alors, il y a une pléiade d'actions qui vraiment rythme chaque mois, et puis aussi un projet de forêt comestible. Ça y est, il est lancé. Le terrain est viable, etc., etc. On en parle demain à 12h35.
Exactement. À demain, donc. Merci, Françoise. À bientôt.
Florence.
J'ai dit Françoise?
Oui.
Vous avez marqué Françoise sur ma
c'est vrai?
Ah, depuis le début. Hein.
Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai, je le sais que c'est pas
Florence.
Vrai.
C'est Florence.
Au revoir.
Désolé, à bientôt. Florence, et voici la nouveauté. Alors, je sais pas comment on prononce l'artiste. Wet.
Je ne sais pas.
Bon.
O-E-T-E.
Voilà, Wet. Eut. Bon, en tout cas, le titre est très très bien. C'est nouveau, ça s'appelle La Tête Pleine. C'est nouveau et c'est maintenant sur 9. Dans 3 minutes, les infos, l'émission en podcast, elle arrive juste après, donc les infos. À demain pour les rendez-vous de midi.
Corps contre corps entrelacé de tout, de toi, de nous. Sans froid, lien en joie même.